Europe 1,
11h midi 30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être consacré au mieux vivre et à votre santé. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui, on va commencer comme tous les matins par une question que voici. Quels sont vos secrets de vie, ceux qui vous font du bien et éclairent votre chemin au quotidien?
Et oui Julia, et alors pour y répondre, on va surtout s'inspirer des secrets de vie d'une femme élégante et généreuse, Perla Servan-Schreiber. À 77 ans, elle va déposer au creux de nos oreilles ce matin ses 77 conseils de vie à elle. Et c'est justement le titre du livre qu'elle vient de publier aux éditions La Martinière. Un livre intimiste, joyeux, pour prendre la vie comme elle vient. Elle va nous transmettre ici l'essentiel pour mieux vivre et se sentir chaque jour tout simplement vivant. Ce sera un entretien très inspirant, vous l'entendrez.
Et puis Mélanie, à 11h35, il y aura notre dossier santé du jour. Focus aujourd'hui sur les problèmes de vue des enfants, notamment la myopie. 25% des porteurs de lunettes âgés de 6-9 vent sont myopes et ils sont 60% à l'âge de 18 ans. Alors justement, savez-vous ce qu'est précisément la myopie et surtout que l'on peut la traiter, ralentir son évolution avec des gouttes, des lentilles et même des verres d'un nouveau genre? On verra tout cela avec le professeur Dominique Brémond-Gignac, chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades.
Ensuite, Julia, à midi, dans notre séquence tendance, il y aura d'abord la chronique gastronomie avec une nouvelle venue dans l'émission aujourd'hui, la journaliste culinaire Sophie Menu sera avec nous et elle va nous révéler ses meilleures astuces pour réaliser un grand classique, l'œuf mayo. Mais alors, l'œuf mayo parfait, vous verrez. Ensuite, Elsa Lévy sera avec nous également. Elle nous parlera de bars d'un nouveau genre. Dans ces derniers, il n'y a rien à boire. Mais alors, que proposent concrètement ces nouveaux bars à oxygène? Elle nous dira tout.
Et puis, nous terminerons cette séquence et l'émission avec la chronique de Séverine Pierron qui nous décrypte aujourd'hui les tendances des jeunes, comme on dit. Non, mais nous, on n'est pas jeunes, hein, Mélanie.
Non,
mais c'est pas grave.
Mais comme on ne comprend pas tout, on l'écoute quoi.
Et bien ce midi, elle nous expliquera cette mode obscure pour nous, parfois la mode du BBL, le Brazilian Butt Lift. Vous savez, ce sont ces fesses surdimensionnées qu'arborent fièrement certaines influenceuses.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 et dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Aujourd'hui, on va se poser cette question. Quels sont vos secrets de vie, ceux qui vous font du bien et éclairent votre chemin au quotidien?
Et nous, ce matin, on va écouter religieusement surtout les secrets de notre invitée. Elle en a listé 77, comme ses 77 printemps. Le petit livre doudou qu'elle publie et dans lequel ils sont listés ont un but. Nous transmettre en quelques mots l'essentiel d'une vie. Aimer, travailler, rire, cuisiner, manger, pleurer, se gaver de beauté, vieillir joyeusement et mourir. On va détailler ça dans quelques minutes, mais avant cela, je suis certaine que lui aussi, il a quelques conseils de vie à partager avec nous. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde. Effectivement, le sujet m'a inspiré aujourd'hui. Je sais que dans quelques secondes, grâce à notre invité, ça va respirer le bonheur encore plus que d'habitude. On va parler de choses qui rendent heureux. Donc juste avant, je voulais un petit peu casser l'ambiance.
Ah bah
et j'ai interrogé les enfants et je leur ai dit, mais vous, qu'est-ce que vous n'aimez pas déjà dans la vie?
Les crustacés et les fruits de mer. Moi, ben, j'aime pas l'école.
La cantine.
C'est vrai que le poisson, il n'est pas toujours exquis, c'est normal, les poissons des cantines. Voilà, mais il y a des choses quand même, c'est bon quelquefois. Enfin, chez nous, on mange de la ratatouille et qu'à la cantine, on mange des frites et un steak haché, je préfère la cantine.
Mon frère, il est chiant.
Les omelettes.
La poubelle.
Les maths, j'aime pas.
Le mercredi.
Ben moi j'aime pas le coq.
Eh ouais, que... il fonce dessus. J'aime pas le coq.
Un florilège incroyable.
Un florilège. Ça c'est ce que les enfants n'aiment pas dans la vie. Maintenant on va se tourner vers des choses positives justement. Comment se rendre la vie plus belle? Est-ce qu'il y a des petits secrets? Est-ce qu'il y a des astuces? C'est ce que j'ai demandé avec mon micro.
Il me fallait me rendre compte que déjà, il y avait des jolies choses tous les jours qui m'arrivaient. Alors, dans mon agenda, depuis quelques années, tous les jours, j'écris un mot positif sur ce qui s'est passé ce jour-là et mon objectif pour que le lendemain soit positif également. Voilà, pas de négatif dans cet agenda, mais que des mots qui me font du bien.
C'est simplement de se surprendre un peu de temps en temps, c'est-à-dire que moi, j'aime bien tout programmer. Et puis de temps en temps, je me surprends moi-même en faisant des choses que j'avais pas prévu de faire, ne serait-ce qu'une balade ou un restaurant ou quelque chose comme ça.
Ça peut être des choses simples, évidemment. Donc, qu'est-ce qui rend heureux les Français? On a essayé de répondre à cette question.
Alors moi, ce qui me rend heureuse dans la vie, c'est pas forcément très original, mais c'est d'avoir mon mari que j'aime très fort avec moi tous les jours, de voir mes deux enfants en bonne santé grandir. Ça me comble de bonheur. Pour moi, ça me suffit.
Je profite de la vie, je me pose tous les dimanches pour regarder mes grands prix quand il y a des grands prix et, et profiter de la vie, des voyages et tout ce qui est bon pour le moral.
Ce sont mes enfants, vraiment.
Et puis surtout, les téléfilms de Noël avec un chocolat chaud et puis un bon plaid. Ça, j'adore.
Je dirais quand on nous fait des compliments. Franchement, c'est toujours sympa de recevoir des petits compliments, quoi.
Allez, j'ai regardé, ça arrive en tête d'ailleurs, que ce soit au travail, dans la famille, dans le couple.
Ah oui,
recevoir des compliments, c'est ce qui est ressorti en premier pour remonter le moral très facilement. C'est gratuit. Alors justement, pour les enfants qui nous écoutent, c'est quoi un compliment exactement?
C'est quand on dit par exemple à quelqu'un « je t'aime, mon amour ».
Un compliment, c'est par exemple si t'es bien habillée pour un mariage, t'as une belle robe, tout est qu'on dit, t'es belle, et ça, c'est un beau compliment.
Et je terminerai, j'ai pas pu m'en empêcher pour mettre un peu de bonne humeur, par le plus beau compliment qu'on puisse faire. Il y en a plusieurs. Voici les plus beaux compliments qu'on puisse recevoir.
T'es la fille la moins démodée que je connaisse et t'es super gentille.
Mon amoureux, des fois, il me dit t'es la plus belle du monde.
Ça peut marcher, ça peut marcher.
C'est, je pense, effectivement.
Vous savez que vous êtes très très sympa.
Mais vous savez que vous êtes les plus belles du monde.
Merci Clément Lanoux pour cette belle introduction, pleine de bonne humeur, comme toujours avec vous. Et je pense que l'humeur va rester telle quelle avec notre invité du jour. C'est vous, Perla Savant-Schreiber, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes auteur de livres de cuisine, d'essais, mais aussi de ce petit dernier, cet ouvrage qui s'appelle « Mes 77 secrets de vie » aux éditions de La Martinière. Alors Perla, il y a 77 secrets de vie dans votre livre, mais vous l'écrivez depuis combien de temps, vous, ce bouquin ?
77 ans. Non, ça n'est pas du tout l'œuvre d'une vie, non, pas du tout. C'est influencé par des amis qui m'ont demandé de coucher à mon âge. Ce que, en gros, il était bon de faire pour que les journées soient un peu plus légères qu'elles ne peuvent l'être parfois. Il ne s'agit pas d'être heureux. Moi, j'ai pas de conseils. Je tiens beaucoup à ce mot secret, ouais, parce que je les ai découverts pour moi et ça marche pour moi. Mais je me suis dit peut-être que ça peut marcher au moins pour une personne, d'autre. Alors pourquoi ne pas les partager, sans compter que la transmission est vraiment ce qui me porte et aujourd'hui, bien sûr, plus que jamais.
Alors justement, ces conseils que vous nous donnez, c'est aussi parfois des conseils qu'on vous a transmis. Donc la transmission, vous y avez eu droit, vous aussi?
Bien sûr, mais bien sûr. Mais c'est une chaîne interminable et c'est la chaîne de l'humanité. Il n'y aurait pas d'humanité s'il n'y avait pas de transmission. Donc, à ma très modeste place et avec l'inconscience de tous ceux qui prennent la plume, enfin, quand ils ne s'appellent pas Victor Hugo, ce qui est évidemment loin d'être mon cas, simplement ce que l'on a observé au quotidien dans des domaines, que ce soit le fait de lire de la poésie, comme je l'ai découvert un peu tard dans ma vie, mais je me rattrape puisque je lis une poésie chaque soir et une chaque matin au réveil.
Et vous vous levez très tôt, hein, je crois.
Et je me lève très tôt. Je me lève très tôt et ça aide. Ça aide énormément à regarder la vie juste joliment.
Alors premier conseil, hein, déjà, oui, Mélanie.
C'est ça,
une poésie
tous les matins et une tous les soirs.
Je pensais que c'était se lever tôt.
C'est ça. Vous dites de votre livre que c'est un livre doudou. Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des livres doudous?
Non, mais justement, je me suis dit, moi, oui, bien sûr, j'en ai des livres doudous. Je ne les appelais pas comme ça, mais ils le sont. Vous pouvez d'ailleurs ouvrir mon sac n'importe lequel, n'importe quel jour. Vous verrez, il y a toujours 3 ou 4 petits livres que je transporte partout avec moi. Hier, j'étais à Tel Aviv et il y avait à peu près 1h30 de queue pour le premier contrôle de police. Il y en a 3. Le premier contrôle de police, eh ben, j'ai sorti l'un d'eux. Et debout, appuyée sur ma valise, j'ai lu et je n'ai pas senti le temps passer. Donc ce sont des livres qui non seulement n'encombrent pas, mais ce sont des livres qui vous permettent de vivre le temps d'une autre manière. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Aussi bien quand le temps s'envole et qu'on ne le voit pas passer, que quand il s'étire et qu'il est un peu trop long. Oui. Il y a, comme en toute chose, dans la relation au temps, une posture juste. Simplement. Et je trouve que ces petits livres doudou qu'on transporte avec soi partout, hein, comme le doudou des bébés dont ils ont besoin pour se calmer, pour s'endormir, pour se faire plaisir, eh bien, j'ai eu envie d'en fabriquer un. Et puis, comme ça a l'air de fonctionner de façon incroyable, je vais en faire d'autres.
On va le glisser dans nos sacs à main, Mélanie, pour la prochaine fois qu'on va attendre 1h30, ce qui arrive tous les jours. Merci beaucoup, Perla Savant-Schreiber. Vous restez évidemment avec nous. On va continuer avec vos conseils de vie. On va s'arrêter plus en détail sur quelques-uns des 77 secrets de vie que vous nous proposez aujourd'hui. Certains conseils puisent leur richesse dans la cuisine, dans notre assiette et surtout dans l'importance de partager toutes ces bonnes choses avec ceux que l'on aime. On y revient dans quelques minutes et on partage tous ces secrets pour une vie heureuse avec vous sur Europe 1.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Bien-être, Mieux Vivre, c'est tous les jours de 11h à 12h30. Alors on se pose cette question aujourd'hui avec notre invité. Quels sont les 77 secrets de vie de Perla Servan-Schreiber? Alors c'est justement le titre de votre livre paru aux éditions La Martinière. Vous le dites, ça passe très vite la vie. Alors gagnez du temps et souriez à la vie, vous ne vous en cachez pas, vous avez 77 ans. Franchement, c'est passé aussi vite que ça?
Oui, c'est passé très vite. Sauf quand vous vous arrêtez sur certaines périodes, mais vous savez, on est toujours trahi par sa mémoire. Vous le savez, bien sûr, elle fabrique ce qu'elle veut, la mémoire. Reste qu'il existe quand même des souvenirs d'une tranche de vie. Et il y a des périodes de ma vie qui m'ont paru extrêmement longues. Mm-hmm. Celles où je n'arrivais pas encore à trouver ma place. C'est important, la problématique de la place, d'être à sa place. Quelle qu'elle soit, mais à sa juste place, j'ai mis beaucoup de temps.
Donc c'est
avant,
pas un problème d'âge, c'est...
Pas du tout.
Ouais, c'est pas ça.
Pas du tout. C'est un problème de confort. C'est un problème où vous avez ce que ce grand psychologue qui vient de mourir et qui s'appelait Sistel Mihai. Ne me demandez pas de vous écrire son nom. Je sais déjà le prononcer, c'est beaucoup. Et c'est lui qui a mis au point, en tout cas, qui l'a nommé cette extraordinaire sensation de flux. Le flux, c'est quand vous ne sentez pas le temps passer parce que vous faites ce pour quoi vous êtes faite. Mmh. Et ça, c'est la problématique de la place. Quand on est à sa place, on ne sent pas le temps passer, mais on sent qu'on fait des choses formidables. C'est-à-dire qu'on n'est pas volé, c'est pas du tout volé par le temps, mais on est véritablement au rythme qui est le vôtre et dans... disons, la connaissance que vous avez à transmettre aux autres.
Alors par là, vous avez fait carrière dans la presse féminine, vous avez créé Psychologie Magazine avec votre mari Jean-Louis. Donc vous avez toujours été une femme très très active et en même temps, pour vous, l'heure des repas, la cuisine, ça n'a jamais été une corvée. Bien au contraire, la cuisine, selon vous, c'est donc une composante essentielle d'une vie réussie?
Pour ma part, pour vous, en tout cas, je lui ai donné cette place dans ma vie. On peut donner cette place à toute autre chose, bien entendu, mais je crois qu'il est important de la donner à quelque chose. C'est-à-dire que dans votre quotidien, vous fassiez chez vous, je dis bien indépendamment de la vie professionnelle, que vous puissiez faire chez vous quelque chose que vous aimez et que vous pouvez partager, quelle que soit cette chose. Et puis, ça n'est pas obligé que ce soit tous les jours, mais il est bon qu'il y ait une place que vous occupez chez vous et qui soit essentiel à partager avec les autres. Moi, c'est la cuisine parce que j'ai vu ma mère être une magnifique cuisinière et pâtissière et que dans notre vie modeste, quand j'étais enfant, c'était des moments où on se sentait riche. On était riche de ce qu'on mangeait, riche des saveurs et riche de ce que l'on partageait avec ceux qui passaient chez nous, pas simplement la famille.
Alors vous donnez très envie de se mettre au fourneau, puisque moi je suis très très loin effectivement d'avoir ce don, cette qualité, mais je vais peut-être la travailler. En tout cas, en attendant, je sais que vous donnez plein de recettes hyper efficaces et je crois que vous avez une super recette de bonne vinaigrette. Est-ce que vous pouvez la partager avec nous?
On veut le secret de la bonne vinaigrette.
Je sais que c'est assez simple pour commencer, mais moi ça me va très bien.
Mais oui, mais c'est très simple, mais c'est essentiel. Essentiel, ce qui fait une salade, c'est sa vinaigrette. Alors, moi, la vinaigrette, j'ai rompu avec le fait de la touiller dans un bol.
Ah bon?
Déjà.
Avec la...
Directement dans la salade, alors, c'est ça?
Oui, c'est directement dans la salade. Ah. J'ai rompu avec la moutarde, que je réserve uniquement à la frisée, c'est-à-dire à une salade dure. Parce que la moutarde, dans une sauce, fait tomber la salade. Ça devient tout mou. Je prends donc, quelle que soit la salade, et je commence par verser dessus un peu d'huile d'olive. Ensuite, je mets du sel, du poivre. Je mets quelques gouttes de soja. Mm-hmm. Je mélange ensuite deux vinaigres, au moins, voire trois.
Ah oui?
Oui.
Lesquels, par
deux
exemple?
Par exemple,
balsamique.
Hier soir, j'ai fait du vinaigre de cidre. Et j'en ai ras-le-bol du balsamique, très sincèrement.
Très bien.
Mais je préfère la crema bianca, c'est-à-dire la crème de balsamique. Et vous en mettez un filet, simplement, parfois, mais pas systématiquement. Donc hier, j'ai fait du vinaigre de vin et du vinaigre de cidre que j'ai mélangé. Et puis voilà. Et ensuite, vous remuez votre salade, mais juste avant de passer à table.
Et voilà. C'est prêt.
Et vous.
Et quelques herbes, hein, vous aimez les herbes. Vous en mettez dans les salades, beaucoup, hein, j'imagine.
Beaucoup,
coriandre,
beaucoup.
Persil, mais beaucoup d'herbes.
Je mets beaucoup d'herbes selon la salade. Voilà.
Bon, je crois que votre plat doudou, alors là, ça c'est plus surprenant, c'est un gratin de coquillettes. Alors c'est simple, c'est bon, mais ça. Hyper efficace. Est-ce qu'on peut avoir votre recette doudou et donc le secret de cette recette?
Oui, parce que, en fait, le secret du gratin de coquillettes, c'est qu'il faut mettre autant de fromage que de coquillettes.
Moi, je valide. Hein.
En poids.
En poids,
voilà.
Ouais.
En poids. Et c'est vrai, c'est ça. Alors, ça n'est pas le seul secret, si je puis dire, pour réussir son gratin de coquillettes. Il est important, un truc, de faire fondre en casserole la totalité des ingrédients que vous allez y mettre. Vous allez mettre du lait, vous allez mettre de la crème, quelle que soit la proportion, et vous allez mettre des fromages. Bon. Et plus vous mélangez les fromages, et meilleur c'est. C'est comme les vinaigres. Plus vous les mélangez, meilleur c'est. C'est comme les pommes. Quand vous voulez faire une compote de pommes, plus vous mélangez de variétés de pommes,
plus c'est
riche, meilleur votre compote est.
Alors, est-ce que la compote, c'est comme l'amitié? Vous allez nous le dire, parce que c'est aussi une composante importante, hein, l'amitié dans la vie. Comment on fait pour garder ses amis toute une vie, Perla?
Je ne sais pas si c'est nécessaire de les garder toute une vie.
On peut en
Tant
changer
mieux.
Oui.
C'est exceptionnel de garder des amis toute une vie.
Vous en avez, vous?
Non. J'en ai pas parce que d'abord j'ai vécu dans des pays différents et c'est un peu plus compliqué à ce moment-là. Mais la vie m'a fait des cadeaux exceptionnels, c'est-à-dire qu'à mon âge, et il y a déjà depuis maintenant une bonne dizaine d'années, je me suis fait des amis qui ont moins de la moitié de mon âge. Mmh. Et autant je ne regrette absolument pas ma jeunesse, que j'ai pas beaucoup aimée, pour tout dire, autant je suis totalement amoureuse de la jeunesse des autres. Je me frotte aux gens jeunes comme je me frotte aux gens joyeux. Et croyez-moi, c'est contagieux.
Vous donnez des conseils amoureux aussi. Vous dites qu'il ne faut pas essayer, par exemple, de changer la personne qu'on aime. Pourquoi cela? On dirait qu'on a envie que la personne, parfois, modifie ce petit détail ou cette petite chose. Mais non, ce n'est pas nécessaire.
Alors, je ne dis pas qu'il faut ou qu'il ne faut pas. Mais je dis que ça ne marche pas. Tout simplement.
Comme ça, on ne perd pas de temps, Mélanie.
C'est juste vrai. Ne pas perdre du temps.
Bien sûr.
Vous ne changerez jamais personne. Et jamais personne ne vous changera. Par contre, il y a une chose qui vous changera. C'est quelque chose dont vous êtes totalement surpris vous-même. C'est l'amour que vous portez à quelqu'un qui vous transforme. Quand vous sentez que vous-même, vous avez des habitudes de vie qui ont commencé à bouger, vous êtes sûr que vous avez fait la bonne rencontre.
Ah, j'allais vous poser cette question. Comment on sait qu'on a fait la bonne rencontre? C'est parce qu'on se modifie soi-même.
On
c'est
se
ça
modifie soi-même.
Et vous dites, oui, vous prenez soin de vous, hein, j'imagine. Enfin, comme vous êtes rayonnante, on n'en doute pas une seconde. Mais vous dites que le meilleur anti-âge, c'est l'amour, justement.
Ah oui, mais c'est le meilleur tout. Moi, je n'ai pas rien trouvé d'autre. Hein. C'est en tout cas mon secret à moi dans ma vie. J'espère qu'il peut comme ça être valable dans la vie de beaucoup d'autres. Mais l'amour, c'est aussi quelque chose que l'on fabrique, que l'on entretient, que l'on cultive, que l'on travaille. Ça n'est pas quelque chose qu'on ramasse comme ça en passant dans la rue. Et puis après, c'est fini, ça dure toute une vie. Il n'y a pas d'amour sans entretien, sans travail, sans réflexion, sans surprise, sans cultiver. C'est une terre dans laquelle il est important de mettre de l'engrais chaque jour.
Très bien. Perla Savon-Schreiber, on va poursuivre ce très agréable entretien dans quelques instants. On a encore envie que vous nous chuchotiez à l'oreille quelques-unes de vos 77 perles de sagesse. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous avez une question pour Perla, n'hésitez pas, vous pouvez nous laisser un message au 3921, notre répondeur, ou encore le compte Instagram de l'émission.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ce matin, nous avons la chance d'avoir Perla Savon-Schreiber avec nous en studio. Elle nous parle de son dernier livre, Mes 77 secrets de vie, paru chez La Martinière. Et Perla, donc, elle nous fait profiter des bienfaits qui ont rendu sa vie plus douce, hein, plus joyeuse. Elle nous les transmet ce matin et on vous en remercie, Perla. Alors, l'un de vos secrets, c'est justement de cultiver un peu le secret dans votre vie. Les réseaux sociaux, par exemple, c'est avec modération. Vous dites pourtant, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur les réseaux sociaux, mais comment on fait là? On dose ça alors?
Comme tout le reste de la vie, si vous ne dosez pas, vous êtes fichu.
Comme la vinaigrette.
Quel que soit. C'est pour ça que, en gros, tout peut se résumer à des recettes, vous voyez. Mais sauf que les recettes, comme j'ai l'habitude de dire, il suffirait. Si c'était qu'une affaire de recettes, la cuisine, il suffirait de savoir lire pour savoir cuisiner. Et on sait que ça n'est pas le cas. Hein, il y a bien d'autres choses.
C'est aussi une histoire de feeling, hein, comme on dit.
Oh oui. C'est, les chefs appellent ça la main. Il faut avoir la main. Alors, je n'ai pas du tout la prétention d'être chef. Je suis juste une cuisinière heureuse et qui aime partager, voilà, avec son entourage. Mais c'est vrai que ça crée des liens indéfectibles, la table. Mmh. Ça, l'observe.
Vous êtes aussi une femme d'affaires très organisée. Hein. Comment vous faites pour être aussi productive? Si vous aviez un secret à nous donner pour justement pouvoir concilier tout ça.
Peut-être que la première des chances de ma vie, c'est d'avoir consacré, de m'être toujours amusée dans mon travail. Réellement amusée. Je me suis toujours débrouillée pour que tout soit joyeux, et pour moi et autour de moi. Lorsque j'ai fait psychologie avec Jean-Louis, c'était d'ailleurs une idée de Jean-Louis, ça n'était pas la mienne, c'était une idée de Jean-Louis. Et lorsque nous l'avons en tout cas mené à bien ensemble, tous les jours à 16h dans mon bureau, je servais un thé avec des gâteaux que j'avais faits, évidemment. Et tous les jours passaient dans mon bureau ceux qui avaient envie de passer. Et c'était un moment d'une convivialité rare, où on pouvait aussi bien, si elles avaient besoin de parler de boulot, on parlait boulot, mais on pouvait aussi bien parler du film de la veille. Et puis, si ça durait une heure, ben, ça durait une heure. Et si ça durait 10 minutes, ça durait 10 minutes.
Si on venait juste de piquer un gâteau, on venait piquer un gâteau.
Et on venait piquer un gâteau. Et c'est ça qui était formidable. Donc, cette espèce de relation très simple, sans, voilà, non guindée, sans prise de rendez-vous, ce moment comme ça, cette parenthèse de liberté, était très joyeuse.
On a dit qu'on allait prendre quelques-unes des questions de nos auditeurs. On a Claudine, par exemple, au 3921, notre répondeur, qui a acheté vos livres de cuisine. Apparemment, elle les a tous. Ils sont très pratiques, elle dit. Et elle dit, elle a un petit secret à vous demander. Comment faites-vous pour cuisiner tout le temps en blanc, sans vous tacher? Parce qu'effectivement, cette tenue blanche, c'est votre marque de fabrique. Mais comment faites-vous? Elle dit, moi, je n'y arrive pas.
C'est la question de tout le monde. C'est drôle, mes petits-enfants me disent, mais c'est quand même extraordinaire, tu n'es pas taché. D'abord, c'est pas vrai, je me tache.
Ouh, on est rassurés, vous êtes humaine, voilà. Ça va.
Mais quand je rentre dans ma cuisine, je mets immédiatement un tablier blanc en lin que j'aime et qui est pour moi un objet extrêmement précieux. Vraiment très précieux. Je l'ai fait faire d'ailleurs parce qu'il est important qu'il soit à la bonne longueur, etc. Et je dirais que le fait de porter un vêtement spécifique pour entrer dans sa cuisine crée une relation à ce que vous allez faire qui est celle d'un engagement très singulier, exactement comme quand vous faites du judo, il ne vous viendrait pas à l'idée de le faire avec un jogging.
Comme
ça n'est pas
possible. Comme une cérémonie
un
peu, hein, c'est ça ?
C'est une cérémonie. Ouais. Et c'est pourquoi je dis toujours que pour moi, il y a de la spiritualité dans mon engagement à moi quand je fais la cuisine et quand je suis dans ma cuisine. Je m'élève et pour s'élever, il vaut mieux être le plus joli possible. C'est toujours vrai d'ailleurs. Il vaut mieux être le plus joli possible.
Alors je crois que vous avez aussi un petit secret pour passer maître dans la négociation. Et ça m'intéresse.
Alors la négociation, au fond, c'est parler, écouter pour obtenir ce qu'on veut. Donc on a un but et on a au fait deux fonctions, celle d'écouter et celle de parler. Il se trouve que moins vous parlez, plus vous écoutez, ou du moins pour que le raisonnement tienne mieux, plus vous écoutez, moins vous parlez. Et si vous laissez un instant de vide sans parole, votre interlocuteur va s'engouffrer à l'intérieur parce que le silence est très pesant pour la plupart des gens. Mmh. Les gens ont peur du silence. Donc, il va immédiatement s'engouffrer dans cette brèche et il va lâcher quelque chose qui n'aura pas été prémédité avant l'entretien et qui va vous permettre d'accélérer pour obtenir ce que vous souhaitez.
Eh ben, c'est bien noté, j'adore ce conseil.
Taisez-vous un peu, Mélanie, pour moi.
Merci beaucoup,
donc,
Perla.
Taisez-vous
le plus possible. On va se faire dans quelques minutes. Merci, Perla Savant-Schreiber, de nous avoir accompagnés ce matin, nous avoir transmis. Surtout, je rappelle évidemment qu'on peut retrouver tous vos conseils dans votre dernier livre, Mes 77 secrets de vie chez Lamartinière. C'est un ouvrage vraiment qui se lit facilement d'une traite, ou alors on peut aussi le picorer comme des mezzés. Et à la fin, ça donne un bon plat, une vie complète de sagesse. Merci
ça
beaucoup.
Ça coûte rien. Oui. Ça coûte particulièrement rien. Ah oui,
5,90 €.
Oui, merci encore à vous. Bon, à présent, Mélanie, on va passer à un autre sujet. On va parler de la vue de nos enfants et de leurs principaux problèmes de vision, notamment la myopie, que l'on peut traiter aujourd'hui de différentes façons. C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Tout de suite, nous accueillons donc notre invité santé du jour. C'est vous, professeur Dominique Brémond-Gignac. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes chef du service ophtalmologie à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris. Et on va parler donc des problèmes de vision de nos enfants, principalement de la myopie ce matin. Mais avant ça, petit retour en arrière. Un enfant à la naissance, on est d'accord, ça ne voit rien. Enfin, je ne sais pas, moi on m'a toujours dit ça.
Ça ne voit rien,
ça
exagérons.
Ça ne voit pas grand-chose. Comment on voit quand on est
à la naissance, c'est 1/20. Donc évidemment, c'est très loin du 10/10 qu'on connaît chez l'adulte. Mais après tout, c'est finalement ce dont on a besoin quand on est relativement entouré.
Mmh. Donc, on nous fait tout, a priori.
On peut quand même dire une chose, c'est qu'on c'est normalement, dans nos sociétés actuellement, on fait tout. Donc, pas beaucoup, mais par contre, ça évolue très vite, puisque déjà un mois, 1/10. Déjà à peu près 1 an, 4/10 environ. Donc, vous voyez, ça évolue vite. Et c'est parce que, en fait, l'œil a besoin d'une maturation supplémentaire à la naissance, même si toutes les couches
tout est là,
de la rétine, tout est présent, bien sûr, tout est fait. Mais il y a besoin quand même d'une vraie maturation. Et c'est normal. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a la lumière qui arrive. Et donc, il faut apprendre à voir, finalement. C'est ça, en fait.
Mais professeur, à partir de quel âge, à quel moment on peut se dire que notre bébé enfant ne voit pas bien, après, justement, ces signes de maturation qui ne fonctionneraient pas ? C'est quoi le déclic ?
Alors, le déclic n'est pas toujours simple. C'est pour ça qu'il y a des points d'étape qui sont faits. Il y a des points d'étape qui sont faits, par exemple, la première semaine de vie par le pédiatre qui va vérifier que tous les éléments sont bien en place. C'est toujours important, à la fois que ça soit visuel et auditif. Donc, ça fait partie des points. Et puis, dans le carnet de santé, il y a des points d'étape qui sont faits toujours par le pédiatre ou le médecin généraliste. Qui sont faits tous les 2 mois, 2 mois, 4 mois. Il y a un point d'étape important, c'est 9 mois. Mm-hmm. Et puis, bien entendu, il y a certains signes d'appel qui vont faire que les parents peuvent se poser la question, de se dire c'est pas tout à fait normal.
Quand il commence à marcher, qu'il se cogne ou des choses comme ça.
Beaucoup plus tôt, même, on peut se rendre compte que l'enfant, normalement, à 3 mois, doit suivre déjà une cible. Donc, vous voyez, déjà trois mois.
Ah ouais.
Mais regardez bien, l'enfant qui va, par exemple, prendre son biberon ou le sein, il va regarder quand même sa maman. Mmh. Donc ça, c'est des points importants que l'on peut juger, je dirais, déjà en tant que parent. Et puis, si on a le moindre doute, dans ces cas-là, il ne faut pas se poser de questions. Il faut demander au pédiatre, il faut aller voir
l'ophtalmo. Mais l'ophtalmo, on peut y aller à partir de quel âge
L'ophtalmo, vous pouvez y aller
tout de suite.
Vous pouvez venir me voir un jour.
Vous les voyez certains dès la naissance.
Vous voyez certains bébés, vous ?
On voit certains bébés, bien sûr, dès la naissance.
Alors, on l'a dit aujourd'hui, on va parler essentiellement de myopie. On parlera des autres problèmes de vision dans une autre émission. On va commencer d'abord en reprenant les choses depuis le début. Un œil myope, un enfant qui a un œil myope, physiologiquement, je crois que c'est un œil qui n'est pas exactement comme les autres. Qu'est-ce qu'il a comme particularité ?
Oui, exactement. Il a une particularité, c'est qu'en fait, cet œil, il est plus grand que la normale par rapport à l'âge de l'enfant. Et le fait que l'œil soit plus allongé fait que les images qui devraient être focalisées sur la rétine ne vont pas être focalisées au bon endroit. Donc, en fait, ça va donner une vision floue. Mmh. Donc, globalement, après, il peut y avoir bien sûr bien d'autres possibilités, mais globalement, le plus fréquent, c'est un œil trop long.
C'est-à-dire que Julia, qui était myope, même si elle a été opérée, aujourd'hui encore, elle a un œil plus long que le mien, par exemple. Moi, je ne suis pas myope.
Elle a un œil qui est plus long que le vôtre. Et donc, les risques, et ça, c'est important de le savoir, les risques persistent sur les risques rétiniens, par exemple, parce que ça reste un œil myope. Même si on est opéré, ça va aplatir la cornée de façon justement à recentrer finalement sur la focalisation sur la rétine. Mais il n'empêche que l'œil étant toujours un peu trop grand, les risques rétiniens ou autres d'ailleurs...
Donc il faut continuer à aller chez l'ophtalmo.
J'ai pris rendez-vous. J'ai rendez-vous dans 2 semaines.
Alors, c'est parfait. Félicitations.
Mais en même temps, je ne suis pas un enfant.
C'est pas le même sujet
du jour. D'ailleurs, c'est quoi les causes de la myopie de nos enfants ? C'est les trop d'écrans ? Qu'est-ce que vous diriez, vous ?
Alors d'abord, il y a des causes familiales, parce que génétique, tout simplement, ce qu'on appelle génétique multifactorielle, dans la mesure, si vous avez deux parents myopes, le risque d'être myope pour l'enfant est quand même, bien sûr, très largement supérieur. Après cela, bien sûr, il va y avoir des facteurs environnementaux, des facteurs extérieurs, et c'est là qu'on rentre dans un grand champ qui est assez large, en particulier bien sûr les écrans. Et là, c'est sûr que les écrans ont un effet qui est toxique. Le fait de ne pas être suffisamment à l'extérieur.
Mais alors, c'est le manque d'extérieur ou c'est l'écran en lui-même qui est nocif pour l'œil?
Les deux. Le manque d'extérieur aussi est un facteur.
Pourquoi? Parce que la lumière.
La lumière du jour est une lumière qui est équilibrée, donc avec une répartition en réalité dans les longueurs d'onde qui est bien équilibrée, alors que les lumières intérieures sont aujourd'hui, en particulier avec les LED, qui sont évidemment très utiles, mais avec des répartitions dans le bleu qui sont beaucoup moins bonnes, avec des pics dans le bleu, et donc là aussi, on sait que c'est moins bon. Et les écrans, bien sûr, ils vont avoir aussi des lumières de ce type-là.
Et donc, pour prouver tout ça, je crois que vous dites d'ailleurs que pendant les confinements, à la sortie de ces confinements, il y a eu une espèce de mini-explosion des cas de myopie chez les enfants. Hein, vous l'avez vu ça en consultation?
Tout à fait, on l'a vu en consultation, mais il y a eu une très grosse étude en Chine qui a montré sur plus de 120 000 enfants qu'il y a eu, sur 4 mois, une explosion en fait de la myopie de ces jeunes entre 6 et 8 ans.
Bien sûr, à cause des écrans, et on n'a pas pu sortir comme on l'aurait voulu. Bon. Professeur Brémond Gignac, on va continuer à parler des yeux de nos enfants dans quelques minutes, et particulièrement de la myopie. Vous verrez que la myopie, évidemment, ça se corrige avec des lunettes, mais ça peut aussi se ralentir avec des gouttes, vous verrez, ou même des verres d'un nouveau genre. On va vous détailler tout ça sur Europe 1.
12h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes bien sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes toujours dans notre dossier santé du jour sur la myopie de l'enfant avec notre invité. C'est le professeur Dominique Brémond-Gignac. Rebonjour. Vous êtes chef du service ophtalmologie à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris. Alors, la myopie, ça se prend heureusement en charge. Un enfant myope à 6 ans, par exemple, ça forcément évoluer. La myopie a combien de chances de s'aggraver dans le temps, finalement?
Alors, on l'a dit, et c'est un point important, c'est un œil qui est trop grand. Donc, à partir du moment où la myopie est déjà établie, l'œil a déjà une taille qui est trop grande. Et forcément, l'enfant, il va continuer à grandir. C'est-à-dire qu'à 6 ans, il n'a pas sa taille adulte. Donc, obligatoirement, l'œil, lui aussi, va continuer à s'allonger. Sauf, bien sûr, si on a quelques actions pour aller contre. Ce qui veut dire que à 6 ans, il ne peut pas terminer avec la myopie qu'il a à cet âge-là. Mmh. Il va forcément être plus myope que la myopie qu'il a déjà.
Mmh. On est d'accord, il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Un enfant qui est myope à 6 ans, il ne peut pas être non myope à 18. Hein. Il sera forcément même plus myope. Ça, c'est obligatoire.
Oui, c'est obligatoire, oui, effectivement. Mmh. À partir du moment où votre œil a déjà une taille qui est au-dessus de la normale, forcément, on ne peut pas rétrécir.
Ça ne se résorbe pas.
En tout cas, nous n'avons pas encore trouvé la façon de faire rétrécir les yeux. Mais tout est possible parce qu'on recherche, on fait plein de choses. Mais
et c'est quoi le suivi d'ailleurs d'un enfant myope jeune? Il doit vous voir tous les combien?
Alors, la base, c'est au moins faire un contrôle annuel pour les enfants, de toutes les façons, myope ou pas myope. Et ça, ce n'est pas toujours facile à réaliser.
Tous les enfants doivent aller au moins une fois par an chez l'ophtalmo?
Exact.
Je
ne
suis pas sûre d'être aussi sérieuse que ça avec les miens.
Bah oui, mais c'est bien.
Bah, votre petite, elle a des lunettes? Oui, depuis pas longtemps. Mais avant 4 ans, elle n'avait jamais vu un ophtalmo de sa vie. Hein, donc, merci l'école et le dépistage. Voilà.
Alors, heureusement, c'est ce que je disais. Heureusement, il y a des points d'étape de dépistage qui peuvent se faire chez le pédiatre, chez le médecin généraliste. Mais logiquement, il faudrait quand même avoir un contrôle ophtalmo annuel. Et puis ensuite, une fois que la myopie quand même est déclarée, par contre, là, il faut être un petit peu plus régulier, au moins au départ, tous les 6 mois.
Tous les 6 mois, ça veut dire que potentiellement, il change de lunettes tous les 6 mois?
Potentiellement, il change de lunettes tous les 6 mois. Malheureusement,
on nous suit, les parents, ça change 2 fois par an, on est remboursé 2 fois.
Et nous suivent. D'abord, pour les enfants, on peut être remboursé quand même plus de fois que les adultes. Hein. Heureusement aussi, parce que ça, on sait qu'avec la croissance, il est logique qu'ils puissent changer. Donc ça, par contre, c'est établi. Mais il faut être plus régulier. Mmh, c'est moins facile, je sais bien, c'est des contraintes pas toujours simples. Mais pour l'enfant, c'est vraiment utile.
Bon, les lunettes, ça corrige, ça c'est une chose, mais on peut, donc quand elle est évolutive, cette myopie, et chez les enfants c'est fréquent, on l'a compris, on peut la freiner avec plusieurs outils. D'abord, il y a les gouttes. Expliquez-nous, elles font quoi ces gouttes?
Alors, et c'est relativement récent finalement, on a cherché bien sûr à freiner cette augmentation de taille, et en particulier, on peut le faire avec des gouttes goûtes qui s'appellent, qui ont des gouttes d'atropine, mais qui sont très très faiblement dosées, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer parfois dans le grand public. Et ces gouttes vont effectivement avoir un effet freinateur sur la pupille. Je ne vais pas vous décrire.
Non, on ne va pas détailler, mais c'est des gouttes qu'on met tous les jours,
une goutte d'atropine très faiblement dosée, qui est fabriquée spécialement. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve, vous n'avez pas le trouvé chez le pharmacien comme ça en vente, parce qu'il faut absolument avoir un contrôle qui va avec, et qui est mis une goutte par jour. Et donc, on contrôle l'enfant régulièrement. Quand on commence comme ça, on ne peut pas s'arrêter. On ne se dit pas, tiens, je vais faire 3 mois, puis je m'arrête. Mmh. Parce que là, par contre, ça pourrait être
délétère. Ça donne de bons résultats, ces gouttes, oui.
Ça donne de très bons résultats.
D'accord.
Ça donne de très bons résultats.
Ça permet de désaccélérer la myopie, c'est ça.
C'est ça, de freiner. Vraiment.
De freiner, voilà.
Frénation.
Et justement, je crois que pour freiner, il y a aussi des lentilles de 2 sortes. C'est bien ça? Vous pouvez nous expliquer?
Alors, il y a aussi plusieurs types de lentilles. Mmh. Alors, il y a soit des lentilles qui sont des lentilles souples, avec un système inclus dans la lentille, qui est un système qu'on dit défocalisant, un peu particulier justement. Alors, c'est là où ça devient compliqué, c'est que, en fait, l'œil s'allonge parce que il reçoit en moyenne périphérie de la rétine, vous voyez à l'intérieur de l'œil, il reçoit un mauvais signal. Et ce signal lui dit que finalement, son œil n'est pas si grand que ça et il continue à grandir. Donc, l'idée est d'avoir des systèmes qui vont contrecarrer ce que l'œil reçoit comme information, parce que dû à l'allongement. Et la lentille défocalisante va avoir ce système qui, en moyenne périphérie, va rectifier de façon à ce que l'œil n'ait plus ce signal qui est un mauvais signal et donc freine la myopie.
C'est bien ça.
Ça marche bien aussi.
C'est le premier type de lentilles.
Ça, c'est le premier type de lentilles. Ça, ce sont des lentilles souples qui sont journalières, qui en général se jettent. Mais évidemment, il faut que l'enfant, il ait quand même un certain âge. Vous ne pouvez pas le faire.
À 5 ans, on ne met pas des lentilles. Hein.
Voilà,
à quel âge on met des lentilles
comme ça? Dès que l'enfant, à mon avis, est suffisamment raisonnable, 8-9 ans. Voilà, il faut qu'il soit quand même raisonnable. Et là, l'ophtalmo va vraiment évaluer parce que sinon, il y a un risque important. Le deuxième type de lentilles un peu particulière, qu'on appelle l'orthokératologie, sont des lentilles qui sont par contre rigides et qui vont changer en fait la conformation de la cornée, donc de la partie antérieure de l'œil, en étant portée la nuit et le jour,
pas de lunettes,
pas de lunettes, mais la nuit. Donc, alors, ça demande quand même, c'est pas facile, c'est, bien sûr, ça fonctionne bien, ça demande quand même d'être très rigoureux, d'avoir des contrôles très précis, et c'est plutôt réservé aux plus grands ados.
Bon, sinon, il y a une dernière technique pour freiner la myopie, il y a désormais des verres nouvelle génération disponibles en France depuis un peu plus d'un an, qui permettent eux aussi de freiner la myopie. On n'est pas juste sur des verres correcteurs de la myopie, c'est autre chose, expliquez-nous de quoi il s'agit.
Et ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est facile. Donc, en fait, ce sont des verres comme des verres de lunettes classiques, qui vont avoir ce système, par contre, que l'on appelle défocalisant en moyenne périphérique, qui
comme
sera
faisaient les lentilles, exactement, mais dans des lunettes,
mais intégré dans le verre lui-même. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment un énorme point positif, parce que l'enfant, de toutes les façons, il va être amené à porter des lunettes. Donc si on peut avoir ces verres à la place, c'est vrai qu'on part sur quelque chose d'efficace, en sachant qu'on peut vraiment freiner.
Puis là, c'est à n'importe quel âge.
C'est à n'importe quel âge, de toutes les façons, après. Et il faut quand même que l'enfant, il n'envoie pas valdinguer ses lunettes toutes les minutes. Mais
il faut qu'on le demande à l'ophtalmo, ça, les verres. Là.
Il faut le demander à l'ophtalmo.
Comment ça s'appelle,
exactement,
vous dites?
Des verres défocalisants. Il y a deux types de verres. Mais après, défocalisants, après, aujourd'hui, ceux qui ont pas mal de recul, c'est Myosmart ou Stellest. Myosmart a pas mal de recul.
Et ça ne fait pas des culs de bouteille, ces verres-là?
Pas du tout.
C'est des verres normaux,
classiques. Ce sont des verres normaux. Il n'y a rien de particulier. Franchement, c'est impossible quasiment de voir
la différence,
sauf si vous vous mettez avec un éclairage.
Et d'un point de vue du prix, on voit la différence ou pas?
Alors, par contre, moi, je n'interviens pas sur les prix, donc vous imaginez bien
c'est
que
c'est
un petit peu plus cher. Après, d'un autre côté, si vous ne changez pas vos lunettes, vous ne changez pas les verres de l'enfant, d'un autre côté, à la fois, vous êtes bénéficiaire sur le fait de ne pas changer trop les verres, et d'autre part aussi, l'enfant est bénéficiaire dans la mesure où il sera moins myope, donc moins de risques. Et donc, chaque dioptrie, c'est-à-dire chaque verre moins important qu'on va gagner, c'est quelque chose de gagné pour l'enfant. Donc, c'est vrai que c'est vraiment important.
Avec ces verres, nouvelle génération, le freinage de la myopie, il est durable dans le temps? Enfin, tant que les enfants portent ce type de lunettes, ça fonctionne, j'imagine.
Voilà, ça fonctionne. Alors, c'est pareil, quand on part là-dessus, quand on part sur un système freinateur, on ne part pas à moins de 2-3 ans. Donc il faut le savoir. Et que vous pouvez, comme je vous disais, vous n'allez pas dire 3 mois, puis j'arrête et je refais autre chose. Non, ça, ce n'est pas possible. Il faut partir sur un traitement durable. Ça fonctionne bien. Sur le verre, par exemple, sur le verre MioSmart, il y a à peu près 60% de freination, ce qui est quand même pas négligeable. Enfin, franchement, c'est intéressant.
Ils seront des adultes moins myopes, c'est ça, clairement.
Il y a 3 ans, on n'avait pas de système freinateur. Enfin, on avait très peu de système freinateur, donc pas rien. Mais
c'est une petite révolution, quand même.
C'est quand même quelque chose, surtout, qui est facile à prescrire et facile à porter pour l'enfant.
On entend quand même que 50% de la population mondiale sera myope en 2050. C'est vrai, ces chiffres?
C'est parfaitement vrai. Et c'est d'ailleurs ce qui a probablement convaincu les industriels de se casser la tête pour trouver des solutions. Donc 2050, 50% de la population qui serait en effet
on peut l'éviter encore myope. Ça
ah bah, c'est ce qu'on essaye
dehors,
de faire.
Moins d'écran, c'est ce qu'on essaye de faire.
Tous dehors, moins d'écran et des systèmes freinateurs. Bien sûr, on est là pour ça et on espère bien que ça va fonctionner parce que le risque est élevé. Dans ces prévisions, plus d'un milliard quasiment aurait des myopies sévères.
Oh là là.
Donc avec des risques des risques derrière. Donc aujourd'hui, il faut se battre. Il faut se battre pour les enfants de demain.
Très bien. Merci beaucoup, professeur Brémond Gignac, d'avoir été avec nous pour cet éclairage, pour toutes ces précisions sur la prise en charge de la myopie chez l'enfant, qui a fait donc de gros progrès, on l'a compris. Bonne continuation à vous.
Merci beaucoup.
Maintenant, Mélanie, il est l'heure de laisser entrer en studio nos 3 chroniqueuses du jour pour la partie tendance de l'émission. La première à officier aujourd'hui sera Sophie Menu. Elle est journaliste culinaire. Elle nous propose de revoir ensemble un grand classique de la cuisine française. Avec elle, on va réaliser des œufs maillots et apparemment s'appeler à notre professeur qui va rester rien que pour cela. Ensuite, on prendra un grand bol d'air avec la chronique d'Elsa Lévy qui nous amène aujourd'hui à la découverte d'un bar à oxygène. Et puis on finira ce tour de table avec Séverine Pierron. Elle va nous décrypter la mode assez curieuse du BBL, le Brazilian Butt Lift. Vous savez, ce sont ces fesses surdimensionnées, une mode qu'on a un peu du mal à saisir avec Mélanie, mais on va tenter d'y voir plus clair. Alors restez sur Europe 1. Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Voici donc le programme d'Europe Midi. On va parler évidemment de l'Autriche qui annonce ce matin, écoutez bien, qu'il va confiner finalement l'ensemble de la population à partir de lundi. À partir du 1er février, les Autrichiens seront obligés de se vacciner. On va y revenir dès le début d'Europe Midi. En France, ce sont plus de 4000 classes qui sont fermées à cause du Covid. C'est le chiffre le plus haut depuis septembre. On y reviendra également. Et alors que l'épidémie repart, 6 à 8 millions de Français vivent dans des déserts médicaux. Est-ce qu'il faut obliger les jeunes médecins à s'installer au moins 3 ans dans un désert médical, juste après l'obtention de leur diplôme? Oui, dit un député qui dépose une proposition de loi. Il a choisi Europe Midi pour parler, il sera en direct avec nous. On ira à Londres où se rend Éric Zemmour. C'est Victor Chabert qui suit ce déplacement pour Europe 1. Victor qui nous dira qu'Éric Zemmour compte sur ce déplacement pour redynamiser sa campagne. La traditionnelle messe du souvenir de la charcuterie française. Oui, elle sera célébrée dimanche à l'église Saint-Eustache à Paris. La messe des charcutiers, elle a lieu depuis plus de 200 ans. On sera avec Joël Mauvignier, qui est le président de la Confédération nationale des charcutiers de France. Et puis, on sera également avec Jean-Baptiste Elissalde, 35 sélections en équipe de France de rugby. Il sera avec nous à un peu plus de 24 heures du choc France-Nouvelle-Zélande, France All Blacks. Voilà le programme d'Europe Midi. On se retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure.
Merci beaucoup, Romain. À tout à l'heure.
Europe 1, 11h30, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine consacré à notre vie quotidienne, content ici de rendre toujours plus douce, notamment avec les conseils, les bons plans, les tendances qu'on partage avec vous tous les jours. Alors aujourd'hui, cette séquence tendance qui démarre à l'instant, elle va commencer par la chronique gastronomie et c'est vous, Sophie Menu, qui serez aux commandes. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous nous proposez un coup de projecteur, je crois, sur l'œuf mayo, c'est bien ça?
Tout à fait, une grosse actu, un bouquin qui sort et le festival mondial, enfin le concours mondial de l'œuf mayo qui aura lieu lundi.
Génial, on va
s'inscrire avec Mélanie. Merci beaucoup, Sophie. Ensuite, ce sera à votre tour, Elsa Lévy. On va ouvrir grand les poumons avec votre tendance du jour. Un bar dans lequel il n'y a rien à boire. Enfin, peut-être quand même, mais on n'y vient pas pour le mojito du patron.
Ben non.
Pourquoi on y vient alors ?
On y vient parce qu'on est peut-être dans une période un peu asphyxiante, on manque d'air. Donc, on va voir si on peut en regagner en allant dans ces bars à oxygène.
Et enfin, on terminera cette partie de l'émission ce midi avec vous, Séverine Pierron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes celle qui nous éclairait à chaque fois sur ces tendances des jeunes qu'on ne comprend pas toujours. Et aujourd'hui, alors celle-là, moi j'ai vraiment du mal à adhérer. Hein. Vous allez nous parler du BBL. De quoi s'agit-il en quelques mots ?
Alors sur Instagram, c'est la guerre des fesses, je vous l'annonce. Et je vous décrypterai ça tout à l'heure. Et vous parlerez du BBL, une secte qui fait rage.
C'est les grosses fesses, quoi.
Vous tout allez à fait. Voir. Merci Séverine, ce sera à vous dans quelques minutes avec le BBL. Mais tout de suite, on passe à la chronique gastronomie de Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Il est donc l'heure de passer à table avec vous aujourd'hui, Sophie Menu. Bon, moi, je cuisine beaucoup, tout le monde le sait ici, mais s'il y a un truc que je ne fais jamais, c'est bien l'œuf mayo pour une seule et bonne raison, c'est que je rate, enfin, j'ai toujours raté la mayonnaise. J'essaye, je ne sais pas pourquoi, moi, je sais faire plein d'autres trucs, mais ça, ça ne marche jamais. Avec vos conseils, peut-être, j'espère, je vais me rattraper aujourd'hui.
Moi, je sais faire la mayo.
Mais je ne sais pas faire les œufs.
Bah oui.
Je fais les œufs, vous faites la mayo, on est nickel. On vous écoute, Sophie.
C'est pour ça que vous êtes toutes les deux, alors, pour vous compléter. Alors, effectivement, si je vous parle œuf mayo, c'est un grand classique de la bistro. Gastronomie, c'est même emblématique. Hein. Quand on dit œuf mayo, en général, on imagine une nappe à carreaux, un comptoir en zinc, des tables en bois. Et on imagine même parfois Yves Montand arriver au comptoir hein, dans un film de Claude Sauté. Alors, à la maison, au resto, c'est vraiment la recette qui sauve de tout parce que c'est vrai que c'est facile à faire puisque même à deux, on y arrive. Hein. Vous, Mélanie, sur la mayo et Julia sur l'œuf ou l'inverse. Et c'est pas cher, ça se gobe n'importe où. Mmh. Et tout est dit dans l'intitulé des œufs et de la mayonnaise et c'est presque tout. Alors c'était un peu ringard il y a quelques années et puis comme la tradition est à nouveau à la mode, et oui, la cuisine c'est un éternel recommencement, et ben l'œuf mayo bénéficie d'un engouement sans précédent. Mmh. Actuellement à Paris par exemple, il y a un nouveau restaurant très tendance qui s'appelle Mimosa, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
J'y suis allée.
Ah, voilà.
J'ai pas
c'est
pris
à l'hôtel de la Marine, ah, c'est ça ?
Hôtel c'est beau, de la Marine, c'est magnifique, c'est Place de la Concorde et ils ont choisi un grand chef, hein, Jean-François Piège, qui est aux manettes.
Et donc l'œuf mayo.
Il fait l'œuf mayo, alors il le revisite un peu version chic, puisque dans certains, il ajoute du homard, dans d'autres, du saumon, du tarama. Il râpe des copeaux de poutargue, qui est aussi très branché. Mmh. Il rajoute même du caviar.
Ah ben dis donc, ça fait cher l'œuf mayo.
Ça fait cher l'œuf mayo. Et alors, il y a beaucoup de chefs hein, qui l'ont revisité. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Jean-Marc Héberlin, qui est le grand chef aussi du restaurant L'Auberge de Lille. Et il me disait qu'il y a quelques années, il avait eu aussi, lui, envie de revisiter l'œuf mayo. Donc, il l'avait fait moller. Il l'avait mis sur une salade russe, c'est-à-dire pommes de terre, carottes, céleri. Mmh. Et puis, il avait fait une petite sauce et il avait rajouté du caviar.
Encore.
Donc, voilà, c'était à la mode.
Mais moi, je veux bien, Sophie, nous, on adore, mais ce n'est pas forcément diététique tout ça, non ?
Alors, oui et non, parce qu'en fait, l'œuf, c'est riche en protéines. Mmh. Le jaune contient des lipides, dont le fameux oméga-3 dont on a besoin, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Seulement 90 calories pour un œuf de 60 grammes, c'est pas tant.
C'est un aliment magique, hein, presque. Un petit
c'est presque
comme ça,
magique, ouais. Ça coûte rien. 80% hein, des calories sont contenues dans le jaune, donc si on est au régime, eh ben, on laisse le jaune de côté.
Ah
on...
non, ça serait dommage.
Ça serait dommage, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, les diététiciens recommandent quand même 5 œufs par semaine.
C'est vrai, c'est à un moment donné, ça. On disait qu'il fallait limiter, finalement, ils sont revenus complètement là-dessus, hein, je suis d'accord
tout
avec vous.
Tout à fait, on parlait cholestérol et tout, mais c'est faux. Mmh. L'œuf, en fait, n'apporte pas ce mauvais cholestérol. Dont on n'a pas besoin. Alors, comme toutes les recettes simples, évidemment, ce sont les plus difficiles à réaliser. Mmh. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'actu. Il y a un livre qui vient de sortir, L'œuf mayo, recette extraordinaire. 80 grands chefs, ça vient juste de sortir.
Mais c'est génial ça.
Là, c'est des œufs mayo en couverture, en tout cas incroyable.
Hein, revisité.
Ouais, c'est magnifique.
Et alors, ce livre, en fait, il a été...
Il n'y a que des œufs mayo là-dedans ?
Tout à fait.
Incroyable.
49 recettes.
Oh,
alors, avec des chefs...
J'en trouverais bien une affaire que j'arriverais à réaliser, je pense.
Je pense, oui, Mélanie, sans problème.
D'accord, mais d'abord, moi, je veux bien que Sophie nous donne la recette,
recette de la finale. Je veux la recette.
Alors, la mienne, c'est des principes très simples.
Est-ce que c'est ce qu'on a dans notre assiette, là, non ? C'est quoi ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on a là devant nous ?
Alors, ce que je vous ai apporté, c'est des œufs mayo qui viennent de la guinguette de Neuilly. Je ne sais pas si vous connaissez ce bistrot qui est Île de la Jatte.
D'accord.
Alors, ils l'ont à la carte depuis très longtemps. Et alors, il faut que vous goûtiez métier. Alors, oh, bon. Je vous décris. Alors, il y a des œufs. Je ne sais pas si on les voit d'ailleurs là.
Si on les voit. Sur
Europe.fr, c'est magnifique.
C'est
beau, hein.
Il y a des petits croutons dessus, c'est ça?
Exactement, parce que pour en revenir à la recette, tomate donc confine. Il faut des œufs.
Évidemment.
Super bons, super frais, des œufs de poule, de ceux qui ont gambadé en plein air. Il faut qu'ils soient à température. Et alors, l'association fait très attention. 8 minutes 40 de cuisson.
Ah, je fais cuire trop, moi. Alors, 10 minutes, moi.
Moi aussi, je fais 10 minutes.
Eh ben non. En fait, j'en leur ai parlé et ils m'ont dit, tu vois, Sophie, quand tu as ce petit liseré verdâtre entre le jaune et le blanc.
Oui.
Ça, c'est pas bon, alors.
C'est trop cuit, donc c'est farineux.
Vous le saviez, Séverine, hein ?
Tout à fait, je le savais.
Et elle ne nous le disait pas.
Non, là, elle est coquine, celle-là. 10 minutes 40, très précisément, pas une seconde
40,
de plus, d'accord ?
Et alors, cette assoce, ils ont même fait... ils ont édité une montre qui s'appelle Eggmaster.
J'adore. Ah, pour ne pas se tromper.
La montre pour l'œuf maillot.
Et expliquez-nous rapidement comment on fait une bonne maillot.
Alors, bonne maillot. Donc, un jaune d'œuf, évidemment, de qualité, frais, très frais, à température, qu'on casse dans un petit cul de poule ou dans un bol. On fouette, hein, pas de trucs électriques. Hein. On a des bras et des mains.
C'est pour s'en servir.
Donc, on fouette, on ajoute une bonne moutarde, une vraiment bonne moutarde de Dijon ou de Meaux. Et puis là, on monte avec de l'huile. Alors, la Somme préconise de l'huile de pépins de raisin.
Ah, d'accord.
Parce que plus léger, plus digeste, meilleur pour la santé.
Moi, j'ai toujours essayé à l'huile d'olive. C'est peut-être pour ça que j'y arrivais pas. Non, je sais pas.
Ah, bah là, c'est de la yoli, Mélanie. Vous partez à Marseille.
Je m'appelle Gomez et je suis née à Perpignan. Hein. Qu'est-ce que vous voulez ?
C'est pour ça, alors.
Et au pépin de raisin, donc on fouette.
Voilà, quelques gouttes de vinaigre de xérès pour remonter le truc. Et alors effectivement, comme l'œuf maillot, c'est quand même toujours un peu mou, et ben c'est toujours sympa, comme là, ce que je vous ai apporté. Ils l'ont customisé, oignons frits, pépins de courge,
ciboulette,
croquant.
Et tomates confites aussi.
Tomates,
hein,
confites, pistous, cornichons.
Il y avait des assiettes vides, hein, dans ce studio, donc je crois que...
Moi, dès que j'ai fini de parler, je vais goûter. Hein.
Eh ben, vous avez fini de parler, vous pouvez goûter.
Merci, Julien. Et puis, merci à la Gagatte de Neuilly, hein, parce qu'ils ont 10 minutes, là. Hein. Ils ont été faits à la commande.
On le sent,
ils
étaient excellents. Régaler encore. Merci beaucoup, Sophie, pour cette redécouverte de l'œuf maillot, ce plat qu'on aime apparemment tous, dans ce studio en tout cas. On va pouvoir mettre tout ça sur la table encore plus fièrement désormais, grâce à vos astuces et vos conseils. Merci, Sophie. Vous restez avec nous, parce que la séquence tendance continue. On va plonger avec Elsa Lévy, non pas sous la mer, mais dans un bar d'un nouveau genre, un bar à oxygène. Et puis Séverine Pierron va nous expliquer cette mode chez les jeunes qu'on voit surtout sur les réseaux sociaux. Vous savez, ces fesses énormes grâce aux œufs maillots là, qu'on dirait prêtes à exploser parfois. C'est pas naturel, évidemment. C'est la mode du BBL, le Brazilian Butt Lift. On va vous révéler tous les secrets sur Europe.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit avec toujours nos trois chroniqueuses de talent en studio avec nous. Sophie Menu nous a régalé avec sa recette d'œuf maillot que vous pourrez retrouver sur europe1.fr évidemment. Et à présent, on va prendre un grand bol d'air en écoutant votre chronique Elsa Lévy avec les bars à oxygène. C'est à vous.
Oui, alors ici, on ne nous vend pas d'alcool, on nous vend de l'air.
Faut que tu respires.
Alors si je vous dis qu'en quelques minutes à respirer de l'oxygène concentré, vous pourriez récupérer 3 heures de sommeil, vous allez me dire que je vous vends du rêve.
Ouais.
En tout cas, c'est ce que promettent les bars et les fontaines à oxygène. Alors j'ai voulu savoir si tout ça est vrai ou si c'est du vent. Alors pour la petite histoire, les bars à oxygène seraient nés au Japon. Selon les Américains, ça viendrait de chez eux. Mais d'après mes recherches, le premier bar à oxygène est apparu à Toronto en 1996. Bref, difficile de savoir qui dit vrai et qui ne manque pas d'air. En tout cas, depuis plusieurs décennies, aller respirer quelques shoots d'oxygène rencontre un véritable succès en Asie, en Europe et plus généralement dans les villes polluées, notamment à New Delhi, où l'installation de ces bars est devenue très populaire il y a 2 ans lors d'un fort pic de pollution, puisque ces bars se sont présentés comme une alternative pour se nettoyer les poumons. Mmh. En France, on peut trouver ces bars dans des centres de bien-être, des instituts de beauté, des salles de sport. Vous les avez peut-être déjà aperçus. Mmh. Ce sont ces grosses fioles remplies de liquides aux couleurs flashy qui contiennent des mélanges d'oxygène et d'huiles essentielles. Et ces cocktails présenteraient plein de vertus.
Alors justement, quelles seraient les vertus de ces bars ?
Conditionnelles toujours.
Voilà.
Eh bien, en fait, il faut savoir que l'air que l'on respire ne contient que 21% d'oxygène. Le reste, c'est de l'azote et des traces de gaz divers. Alors que ces bars nous proposent un air contenant 95% d'oxygène. Cette forte concentration permettrait d'augmenter les défenses de notre organisme, de combattre les effets de la pollution, d'améliorer la concentration, de lutter contre la fatigue ou tout bêtement, de se remettre d'une soirée, d'un décalage horaire ou encore d'augmenter nos performances sportives. Bref, on parle de détente et de tonus à la fois. Une séance aurait même des bienfaits similaires à une journée au grand air à la montagne.
Et vous nous prenez pour des cornichons ou quoi?
Oui.
Est-ce que c'est le cas? Alors, vous avez testé?
Ouais, bah, pas tout à fait ouais. Le cas en fait. En fait, le problème, c'est que ces barres mettent en avant la quantité d'oxygène absorbée sur du court terme plutôt que la qualité de son assimilation sur le long terme. C'est pourtant cette qualité d'assimilation qui ferait tout l'intérêt de l'oxygénothérapie et non la quantité. D'ailleurs, selon certains spécialistes, l'oxygène à concentration élevée serait même toxique pour les poumons, pouvant générer des radicaux libres et du stress oxydatif ou même provoquer des effets semblables au gaz hilarant. Donc, attention.
Ça a l'air moins sympa là, tout à coup.
Oui, donc attention avec ces pratiques si elles ne sont pas encadrées et attention également avec tous les produits dérivés hyper tendance qu'on trouve sur Internet comme par exemple les canettes d'oxygène où il faut compter 10 € pour 4 litres d'air. Non,
mais... Les maillots, c'est sans modération, ça, c'est avec attention.
Avec grosse modération l'oxygène. Les médecins parlent quasiment à l'unanimité de mode et d'usage récréatif. En revanche, si l'idée de tester une séance réoxygénante vous prend. Peut-être alors se tourner vers un procédé plus naturel et qui vise, lui, une meilleure oxygénation cellulaire. C'est ce que propose le bol d'air Jacquier et qui, lui, est une invention française.
Et alors, c'est quoi ce bol d'air Jacquier?
Eh ben alors, je suis à la rencontre de Cécile Leneveu, responsable des espaces holistes à Paris, qui développe cette méthode pour qu'elle nous explique le procédé du bol d'air Jacquier.
Donc René Jacquier s'est inspiré d'un phénomène qu'on retrouve dans la nature, dans les aériums ou sanatoriums, et a mis au point son dispositif et cet appareil, le bol d'air Jacquier, c'est comme ça qu'il l'a baptisé, qui reconstitue exactement ce phénomène.
Ici, de la résine de pin distillée est placée dans une machine et grâce à un flux d'air, les molécules volatiles sont libérées et expulsées par un tuyau devant lequel on doit respirer. L'oléorésine deviendrait ainsi un meilleur transporteur d'oxygène pour nos cellules, car Cécile expliquait le cœur du problème.
Donc l'oxygène est présent dans l'air en quantité suffisante et pour autant, nous souffrons tous d'hypoxie, plus ou moins importante, l'hypoxie étant un manque d'oxygène au niveau cellulaire.
Voilà, selon Cécile Leneveu, la pratique régulière d'un bol d'air aide à retrouver le cercle vertueux d'une bonne oxygénation. Ces séances d'environ 3 minutes permettraient de pallier ce manque et de retrouver un meilleur équilibre. En France, on compte 600 centres qui proposent ces bols, des thalassos, kinés, naturopathes, mais on peut aussi louer une machine pour un usage à domicile. La liste des centres en France se trouve sur holist.fr. Et alors peut-être l'heure de faire un petit baptême de l'air.
Merci beaucoup Elsa pour la visite de ce lieu étonnant en tout cas. Je ne connaissais pas du tout, il y a vraiment des bars à tout désormais Julia, c'est dingue. Hein. Alors ce qui est incroyable également, c'est la taille. Alors le volume des fesses de certaines jeunes femmes ces dernières années. On en voit dans certaines télé-réalités, on en croise même dans la rue désormais. Et je ne savais pas que cette mode avait un nom, mais donc Séverine Pierron, ce phénomène c'est la secte du BBL, c'est bien ça?
Alors le BBL, qu'est-ce que c'est? Je vais vous en parler tout de suite. Si vous allez sur Instagram, forcément, vous avez vu ces fesses pulpeuses, ces fesses vertigineuses, ces fesses qu'on croirait sorties tout droit d'un dessin animé façon Jessica Rabbit. Eh bien, ces fesses, c'est la dernière tendance sur Instagram. En effet, le BBL, c'est le Brazilian Butt Lift en français, le lifting brésilien des fesses. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est une intervention chirurgicale pour obtenir un volume presque surnaturel, on va dire. Mm-hmm. Et évidemment, cette mode vient...
De Kim Kardashian, non, un peu?
Évidemment, ce sont toutes ces stars qu'on trouve sur Internet, sur les réseaux sociaux, comme Kim Kardashian, ou même des rappeuses comme Cardi B.
Ah ouais, Cardi B, elle a des fesses de ouf.
Voilà, Kylie Jenner, en fait, toutes ces personnes qui sont en fait des influenceuses, c'est comme ça qu'on les appelle, eh bien, en fait, elles ont lancé cette tendance de fesses en forme de poire, si vous voulez. Si vous voulez visualiser, c'est vraiment des fesses énormes, en forme de poire. Mais attention, ce n'est pas pour autant le retour de la grosse fesse, de la fesse. Ça ne veut pas dire que maintenant les fesses grosses sont tendance, parce que c'est quand même un volume qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans la réalité.
Vous voulez dire que généralement quand on a des grosses fesses, on est un peu épaisse de partout, je veux dire. Alors que là, en fait,
épaisse de partout, oui peut-être.
Enfin, la taille aussi.
Là, en fait, si vous voulez, c'est tellement retouché que il faut avoir une taille très fine. L'objectif, c'est un nouveau standard de beauté.
Mais
en fait,
ça n'existe pas. Ça
n'existe pas dans la réalité. Bien sûr, les images sont un petit peu retouchées, mais là, il y a surtout une intervention chirurgicale. Donc, le Brazilian Butt Lift à l'origine, comme son nom l'indique, vient du Brésil. Mm-hmm. Ça vous a pas échappé sur les plages de Rio de Janeiro. Les fesses
sont assez généreuses.
C'est là qu'elles sont apparues, quoi, on va dire.
C'est ça. Voilà, c'est là qu'elles sont apparues. Et donc, en fait, c'est une intervention chirurgicale qui a démarré plutôt voilà, au Brésil, qui s'est répandue. Et très rapidement, c'est, en fait, on va chercher la graisse.
Je vais vous dire, ça consiste en quoi, le BBL?
Alors, soit on fait poser des implants, mais plus fréquemment, ce sont des injections de graisse. La graisse est prélevée à un autre endroit du corps.
La graisse auto-immune.
Elle est filtrée, nettoyée, voilà, c'est ça, et ensuite réinjectée dans les fesses.
Je ne peux pas donner ma graisse à Julia. Elle prend la sienne, elle garde la sienne, et puis moi je garde la mienne.
Mais vous n'en avez pas, Mélanie?
Chacun garde sa propre graisse.
Bien sûr, j'ai un bon stock avec tous les œufs maillots que je mange.
C'est comme si on resculptait un petit peu les fesses. Alors évidemment, là, je vous dis ça comme ça, ça a l'air génial. Bon, c'est quand même une intervention chirurgicale assez lourde. Mais il existe une variante colombienne, parce que donc il y a le lifting brésilien des fesses, et il y a aussi la variante colombienne. Là, je vous laisse faire une recherche Colombian Butt Lift sur Internet.
On va regarder. Ouais.
Ça fait un petit peu mal aux yeux, c'est à base de ventouses. Voilà,
oh,
donc
pardon.
C'est ça. Voilà, mais ce qui est intéressant quand même, je trouve, dans cette tendance, c'est que...
C'est plus artisanal alors, la colombienne brésilienne.
En fait, il n'y a pas d'injection, il n'y a pas d'intervention chirurgicale, c'est plus une aspiration. Oh. Bon, enfin, je ne rentre pas dans les détails.
J'aurais pas dû aller sur Internet.
Ouais, c'est un peu gore.
C'est affreux, hein.
Mais ce que je trouve intéressant quand même, c'est que là, dans cette tendance, en fait, on voit que ce sont les fesses qui sont mises à l'honneur, alors que depuis les années 2000...
C'était les seins, non ?
Voilà, dans les années 90, pardon, c'était plutôt les seins, rappelez-vous, le Wonderbra, voilà, il n'y avait pas Pamela Anderson, c'était vraiment là que se faisait le... C'était vraiment le point de fixation érotique, si vous voulez, dans les années 90, et là, ça a vraiment glissé, et c'est au tournant des années 2000, avec des personnalités comme Jennifer Lopez ou Shakira, rappelez-vous.
Ah oui, donc en fait, les fesses, c'est les nouveaux seins, c'est ça ?
C'est à peu près ça, voilà. D'accord. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, les ados, par exemple, qui sont très accros aux réseaux sociaux, pour elles, c'est très, très important d'avoir des belles fesses, d'avoir des fesses rebondies. Autant avoir des petits seins, c'est pas très grave parce qu'on peut tricher. Autant avoir les fesses plates, c'est compliqué de tricher avec juste un vêtement, voilà.
Moi, j'ai vu des collants avec des petits rajouts dedans.
De c'est vrai,
oui, il y a les push-ups là.
Oui, il y a les push-ups pour les fesses, tout à fait.
Ça va encore.
Ça va encore. Mais voilà, les ados d'aujourd'hui, pour elles, c'est vraiment important d'avoir des belles fesses. C'est important pour séduire.
Mais moi, je voulais prendre la parole parce que c'est sympa les interventions, mais surtout pour nos jeunes, c'est affreux quand même. On peut aussi faire des squats. Moi, je fais des squats. Alors, ok, ça fera jamais les fesses hyper cheloues qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais ça fait quand même des belles grosses fesses.
Oui, bien sûr. Alors, évidemment, il y a notamment aussi sur les réseaux sociaux, on peut voir tout un tas d'exercices sportifs où les filles sont en truc hyper moulant et en effet font des squats, font tout un tas d'exercices pour renforcer la fesse est devenue vraiment un vrai focus qui est fait sur les fesses. C'est important d'avoir un fessier digne de ce nom, quoi. La fesse plate, c'est fini.
Il y a un côté volumineux, très volumineux, même sur ces Instagrammeuses là avec le BBL, mais elles veulent même se faire ajouter de la culotte de cheval.
Oui, pareil,
elles vont
c'est
se faire
la mode.
Incruster de la culotte de cheval. Bah, c'est quand
alors
même
vraiment,
de la folie.
C'est une forme vraiment en sablier, si vous voulez. Alors évidemment, avoir une taille très très,
Sophie
très
Menu
fine.
Sophie Menu a l'air perplexe sur cette mode.
Il y a des risques en plus.
Il y a des risques.
J'ai vu quelque part qu'une influenceuse, je crois, de la série, pour ne pas la citer, les Marseillais, a eu une infection justement suite à ça.
Donc
à une opération.
Mode qui est bête,
non, bien sûr,
très dangereuse.
C'est vraiment à consommer avec modération, comme les œufs maillots.
Oui,
c'est...
oui alors... mais le temps passe et les œufs durs.
Ah, bravo, Sophie. Sophie Menu, vous avez le mot de la fin, mais c'est magnifique. Hein. Vous nous ferez des petits poèmes comme ça sur les œufs et puis sur tout ce qu'on mangera grâce à vous. Merci en tout cas, Séverine, pour toutes ces précisions et d'avoir percé pour nous ce mystère de ces jeunes femmes avec ces fessiers si volumineux. On n'adhère pas forcément, mais au moins on comprend mieux ce phénomène grâce à vous. Merci à toutes les trois. Bien fait pour vous. C'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien évidemment lundi à 11h. Et Mélanie, lundi, quel sera le programme ? Alors lundi, on va parler d'amour pour commencer la semaine en douceur, puisque l'amour, bah, évidemment, c'est central dans la vie. Tellement central que certains décident et assument de plus en plus actuellement d'aimer plusieurs personnes à la fois. On ne parlera pas d'adultère, mais vraiment du polyamour. Des couples à trois, par exemple, est-ce vraiment possible et durable, cette façon d'aimer ? On se posera en tout cas la question lundi.
Oui, et d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques, si vous en avez, sur nos comptes Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.